Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat jusqu'à 19h avec l'avocat Jean-Yves Le Bon. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bonsoir à Frédéric Dabi.
Bonsoir Pierre.
Directeur de l'opinion à l'IFOP. Alors à l'instant, il sort de ce studio avec Benjamin Haddad, restons là-dessus. On parlait de ce budget, puisqu'évidemment Gabriel Attal a fait des confidences à nos camarades et cousins du journal du dimanche en disant que de toute façon la France a besoin d'un budget et que s'il faut utiliser le 49.3, Frédéric Dabi, ben on le fera.
Il a raison de le dire. Je pense qu'il faut dépassionner le côté cataclysmique dans l'opinion publique d'un 49.3.
Oui.
Michel Rocard l'a utilisé.
On en parle tout le temps.
Michel Rocard l'a utilisé tout simplement 28 fois. Ça a été un des prémices les plus populaires pendant tout son mandat, hein, 88-91, ça ne nous rajeunit pas. Et puis, le 49.3 peut être très mal perçu quand, oui, quand il met en avant, il souligne un manque de cohérence. Mmh. Loi Macron en 2015, discutée très largement qui aurait pu passer, et on dit que Manuel Valls a pris le 49.3 pour éviter une victoire, si je puis dire, politique à Emmanuel Macron. Donc le 49.3, ça s'inscrit dans un récit. C'est clair que s'il y a un 49.3 sur le budget, le gouvernement, la majorité pourra dire, mais comme vous le dites Pierre, il faut absolument avoir un budget, il y avait un risque que le budget ne soit pas voté, nous avons une majorité relative, nous devons agir pour les Français. Mais
c'est le narratif
vrai,
en ce moment.
C'est le narratif, c'est le récit, mais il pourra être contré par des anti-récits, par des anti-narratifs sur la fragilité de cette majorité législative relative qui ne peut même pas faire voter son budget. Sachant que par rapport, j'ai fait référence à Michel Rocard, par rapport à 1988, maintenant, le gouvernement ne peut utiliser que deux fois le 49.3 par an. On n'est pas du tout dans le 49.3 systématique, mais je pense que ça dépendra du récit et ça dépendra de la manière dont la discussion se déroulera. Et puis, on peut espérer, et le gouvernement peut espérer, une abstention ou des soutiens ça et là, de socialistes, sans doute pas, des républicains peut-être.
Voilà, peut-être des républicains. Jean-Yves Le Borgne.
Deux réflexions. D'abord, le 49.3, un peu comme toutes les institutions d'autorité, est aujourd'hui diabolisé d'une manière assez extraordinaire. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit à propos de l'utilisation par un Premier ministre socialiste qui n'avait pas en plus, loin de là, un profil de despote, de ce 49.3. Ça, c'est le premier point. Et l'acte d'autorité, finalement, quand il est mesuré, quand il est raisonnable, doit exister dans une structure politique. Car si à partir du moment où vous dites « je veux qu'il en soit ainsi » et il faut que ça se débloque, vous devenez l'image du despote insupportable, que sera la démocratie? Quelle image en aura-t-on? Peut-être celle d'un désordre et d'une anarchie totale. Alors, vous évoquiez à la fin de votre propos l'hypothèse d'une abstention. Alors, on sait tous que la tradition parlementaire veut que quand on est de l'opposition, on ne vote pas le budget. On ne vote pas le budget. Est-on pour autant obligé de voter contre? Alors, c'est un peu aussi, c'est clair, je dirais, l'ambiguïté de la position des Républicains qui se veulent dans l'opposition. Et on peut le comprendre et l'admettre, qu'ils veulent une liberté de décision sur tous les projets et propositions qu'ils auront à examiner, mais qui, au fond, pourraient peut-être, je dirais, dans une solution de sagesse, opter pour une abstention qui, alors, ferait de la majorité présidentielle la majorité suffisante pour que le budget soit voté.
Alors, c'est un peu comme un jeu de cartes, hein, c'est-à-dire qu'on a ça entre les mains, on se dit, est-ce que je dégaine l'as de pique tout de suite? Et ce 49.3, alors finalement, alors que le président de la République, on le disait avec Benjamin Haddad dans l'avion, disait que finalement, on n'irait peut-être pas à la force, par la force là, pour le coup, sur la réforme des retraites, il pourrait servir pour ça, Frédéric Dabi.
Oui, mais une fois de
plus.
Le 49.3, c'est la méthode.
Oui.
C'est la forme. Ça compte énormément.
Et pardon
méthode.
De le diaboliser.
On a dit à peu près la même chose. C'est vrai que c'est la méthode. Ça compte. On se souvient que la très forte concertation d'Édouard Philippe, avant la réforme des retraites, anti-Covid, si je puis dire, n'avait pas empêché des critiques très fortes. Ce qui compte pour moi, aujourd'hui, et je suis assez à l'aise de le dire, puisqu'on a publié une enquête IFOP JDD de la popularité du président et d'un premier ministre, où on laisse parler les Français sur leurs raisons de satisfaction et de mécontentement. Je vous assure, Pierre, sur 1850 verbatim, il y a une poignée qui évoque le 49.3. Par contre, la réforme des retraites vue comme une injustice, vu comme un acquis social qui s'en va. Ça va de pair avec une enquête IFOP JDD. Je recite nos amis du JDD du mois d'avril, avant la présidentielle, où on avait 75% des Français, 77%, qui considéraient que le candidat Macron devait retirer de son programme la retraite à 65 ans. Là, il y a un vrai enjeu. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la logique d'opinion qui avait fonctionné en 2010, au moment de la réforme Woerth-Fillon, qui était, puisqu'on ne peut pas baisser les pensions, puisqu'on ne peut pas, dans un contexte de pouvoir d'achat contraint, augmenter les cotisations retraite, il ne reste qu'un effort raisonnable, et à l'époque, de c'était durée, passé de 60 à 62 ans. Là, cette mécanique d'opinion n'existe pas. En gros, le rapport de force, c'est un tiers, deux tiers défavorables à cette réforme des retraites. La seule catégorie de population favorable sociodémographiquement, ce sont les personnes âgées, les retraités, par définition, pas concernés par cette réforme.
Oui, mais en attendant, on ne peut pas, et c'est le président qui l'a dit, financer par la dette et on ne peut pas financer par les impôts.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça fait quand même un nombre d'années considérable. Vous évoquiez les efforts d'Éric Woerth, à l'époque ministre du Travail, quand il soutenait cette réforme de la retraite. Ça doit monter, si ma mémoire est bonne, 2010. À une douzaine d'années. Oui, c'est ça, 2010. Donc, on est dans ce sujet depuis longtemps. Alors, on est peut-être aussi dans l'analyse d'un phénomène concret et précis d'une manière plus passionnelle que rationnelle. Qu'il y ait une injustice à ce que certains qui ont des fonctions pénibles, qui usent la personne, soient prolongés dans leur durée de travail, je crois que n'importe quel homme ou femme de bonne volonté, on sera d'accord. Le problème, c'est que quand on est dans une situation de santé, je ne veux pas parler de moi, mais enfin, je ne vous dirai pas mon âge par coquetterie, mais j'ai passé les 65, et les 60 a fortiori plus encore, et l'idée d'arrêter de travailler ne me vient pas à l'esprit. Alors, on ne me force pas, je peux demain...
Oui, mais n'êtes ni tourneur-fraiseur...
On est d'accord, et je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a l'usure, l'usure du travailleur dont on doit prendre en compte, et puis il y a aussi peut-être un certain nombre de nos compatriotes qui ont le malheur quand ils vont travailler le matin de se dire vivement que ça s'arrête. Pas par usure, fatigue.
Mais je dis les tourneurs-fraiseurs et les cheminots, vous en avez défendu aussi, donc vous savez la pénibilité de leur métier.
Mais bien sûr, mais je pense que si on tient compte de tout ça et si on le dit, qu'on ne soit pas dans l'annonce d'une réforme des retraites qui pourrait comporter tous les fantasmes possibles, qu'on dise qu'on tiendra compte de tout cela. Je pense d'ailleurs que le président l'a dit il n'y a pas si longtemps. Bon, à ce moment-là, mettons-nous autour d'une table. Ce qui exclut l'idée de faire passer subrepticement au hasard d'un amendement quelconque une réforme qui n'en serait pas une. Je crois qu'un phénomène aussi large que celui-là suppose un consensus national.
Alors, je partage complètement votre propos. Un article ça et là dans le PLFSS serait vu comme un escamotage beaucoup plus dangereux que le 49-3 qui, comme vous l'avez très bien dit, fait partie des armes d'une majorité qu'elle peut utiliser pendant toute une législature. Mais c'est vrai que la chose est relativement compliquée sur cette réforme parce que les Français s'inscrivent dans une logique de der des der. Pour prendre une métaphore historique, c'est-à-dire à chaque réforme des retraites, depuis celle de Pierre Mauroy, vous avez cité, je remonte encore plus loin, vous voyez, celle de Woerth, François Fillon, les dernières en cours, c'était pour sauver le système, un dernier effort pour sauver le système. Et les Français voient revenir cette réforme régulièrement. Là où il y a une véritable rupture, une véritable nouveauté, c'est que le président l'a dit, il ne prend pas les gens en traître. Cette réforme des retraites, Bruno Le Maire l'a dit également, je crois, sur votre antenne, chez Sonia Mabrouk, cette réforme des retraites va servir non pas seulement à financer le système, mais à se dégager des marges de manœuvre sur la santé et sur le climat. Donc, le côté finalité d'acceptabilité de cette réforme pour sauver le système, de ce point de vue-là, a du plomb dans l'aile. Mais je pense qu'il y a quand même un chemin, vous l'avez dit, la pénibilité. N'oublions pas une pression, pour revenir plus sur un registre plus politicien, une pression des sympathisants LR qu'on a vu lors du premier quinquennat à vouloir des réformes de structure. Hein. On l'a vu lors de la réforme de la SNCF, la réforme du Code du Travail, la Sainte Alliance LR-LREM, non pas politiquement, mais au niveau de la base, pour faire passer les réformes. Donc, il y a des possibilités, mais pour l'instant, par rapport à ce qui avait été lancé en 2019 avec Édouard Philippe, on est sur une opinion beaucoup plus difficile à convaincre.